Chapitre 12. Rome, 15 septembre. À mon arrivée, Irène m'a serré dans ses bras. Nous étions bien émues toutes les deux. Elle pleurait presque en pensant à mes chagrins et ne pouvait mieux exprimer son sentiment. Monsieur de Paulin m'a salué en grande cérémonie, c'est sa manière, mais sans dissimuler une grande sympathie. Quels gens exquis, quelle douceur de vivre auprès d'eux pendant un an, peut-être plus. Une femme de chambre m'a conduite dans mon habitation, organisée, meublée, éclairée, avec tout le confort relatif qu'il était possible de lui donner. La nuit très noire ne permettait de rien voir dans le jardin, et la porte fermée, vite, j'ai couché mes fils qui dormaient debout. Ils n'ont même pas touché à la collation qui nous attendait. Irène, le matin, est venue pendant que mes enfants dormaient encore. Avec tact, avec délicatesse, elle a soulevé le voile de mes douleurs. Je lui ai tout dit, sauf une certitude amère qui doit demeurer cachée. Pauvre Fabien, il est mort de chagrin. Irène me reprocha de ne pas m'être appuyée sur leur amitié. Non, Irène, s'appuyer sur des amis est bien, jusqu'à la bourse exclusivement, principe que j'ai toujours entendu émettre par mon père. Un travail payé, très bien. C'est donnant-donnant, mais autrement, la chute morale nous guette. Je ne trouve pas la solidarité des êtres qui sympathisent, que dis-je, qui s'aiment, est une loi devant laquelle l'orgueil devrait baisser pavillon. J'ai tout accepté pour mes enfants. Oh, Irène, que M. d'Hautefort est bon !« Très bon, me répondit-elle d'un ton assez sec. Quand il s'agit de toi, tout est différent. Suis-je donc orgueilleuse ? Fabien affirmait le contraire. Il se trompait. Je réfléchis un instant et fis cette belle découverte. La détresse se révèle en effet dans le caractère des tendances inconnues. Irène m'embrassa tendrement. La détresse, pauvre, pauvre amie, elle est envolée. Mais son passage vous laisse une triste, bien triste mine. Nous changerons tout cela. Venez voir mon jardin en attendant qu'on apporte vos gros bagages. Quel enchantement! Les murs de ma toute petite maison sont couverts de rosiers remontants aux lourdes touffes. À quelques pas, un palmier autour duquel s'enroulent ces volubilises d'un bleu franc, clair, que l'on sort des serres et qui s'acclimatent à la température de l'été. Que c'est joli! Je ne partage pas vos grands sentiments religieux, Irène, mais je pense qu'une fleur est le sourire de Dieu. Qui a dit cela? Je n'en sais rien, j'ignore si c'est une réminiscence, mais j'étais bien capable de le dire moi-même, répliquai-je avec une fermeté indignée. Elle a ri, nous nous retrouvions, elle avec son intelligence indulgente, gaie, qui s'amuse, je ne sais pourquoi, de mes réponses, moi avec les dites réponses qui jaillissent à tort et à travers. Mes enfants dormant toujours, Irène m'a montré sa maison élégante, confortable, perdu au milieu des arbres et des buissons du délicieux jardin. Installation que je ne connaissais pas, car elle est récente. Nous avons loué, mais je pense que nous achèterons. Je le souhaite, un chez-soi aussi joli est un plaisir de chaque jour. Elle a rougi, elle se rappelait que j'avais perdu le chez-moi, ma propriété et le reste. Aussi parut-elle assez embarrassée pour que j'en fusse désolée. Je passai affectueusement mon bras sous le sien. Irène aimée, en me parlant, ne soyez jamais gênée par ce qui a été et n'est plus. Jamais, entendez bien, je ne serai plus heureuse ou contente qu'en vous voyant vous-même heureuse ou contente. Me croyez-vous ? Oui, Frédéric. Alors, faites-moi partager vos joies, vos plaisirs, sans retours embarrassants et parfaitement inutiles. Nous nous sommes serré la main et tout est net. 17 septembre. Reçu une lettre de M. d'Hautefort qui s'informe de mon voyage et me prévient qu'il a écrit à M. de Paulin pour les arrangements nécessaires avec le directeur de la pension où mes enfants entreront le 28 de ce mois. Avant l'ouverture des classes, ils auront ainsi 3 ou 4 jours pour jouer avec des camarades et s'habituer à leur cage. En supposant que ces dispositions vous agréent, chère madame. Comment ne m'agréerait-elle pas ? Tout ce qui vient de ce cœur inappréciable m'agrée. Je l'ai dit à Irène. Cœur inappréciable, Frédéric, le mot est juste. » Son expression singulière en me regardant m'a rappelé l'air de mon père quand il me demandait si mes notes contiendraient toutes mes pensées. Il en doutait manifestement, et je crois qu'il avait raison. D'abord, les pensées sont souvent difficiles à saisir. Elles fuient avec des manières d'oiseaux effarouchés si l'esprit ou le cœur inquiet veut s'en emparer. Serait-ce un bonheur de les emprisonner ? 23 septembre. Avec M. de Paulin, je suis allé voir le directeur de la pension, homme très aimable qui parle bien le français. Il m'a fait visiter tout l'établissement, admirablement compris. Mes fils s'y plairont. Pourtant, j'aurais mieux aimé, bien mieux aimé, qu'ils fussent externes. À cela, plus d'une impossibilité, notamment les occupations qui m'attendent. 29 septembre. Ils sont entrés avec crânerie dans leur pensionnat en me répétant qu'il ne fallait pas m'inquiéter. « Petite mère, nous sommes très contents. D'ailleurs, nous te verrons souvent. » Pauvre petit, l'adversité qu'ils ont sentie sans la raisonner a développé leur entendement sur plus d'une chose qu'ils devraient ignorer. Je n'ai pas entendu le portail se refermer sans un léger serrement de cœur. Mouvement déraisonnable, car je les verrai continuellement, mes enfants charmants. Moi, je suis entré sérieusement en fonction. Gravement, l'historien m'a parlé de ses travaux et de mes responsabilités, me laissant entendre que des erreurs dans mes copies ou dans mes recherches seraient des crimes. Je voudrais bien éviter d'être criminel afin qu'il ne soit pas contrarié. 8 octobre. Mon travail m'absorbe et je vois qu'il me faudra marcher tambour battant. Deux hommes en Monsieur de Paulin, le courtois fin et dissert. Le travailleur qui s'impatiente si je ne vais pas assez vite, si je ne saisis pas au vol son idée. Je m'en félicite parce que j'acquiers ainsi la preuve que M. de Paulin devait nécessairement se procurer une secrétaire. Il l'aurait trouvée à Rome, mais il tenait à une Française et il était plausible, affirme-t-il, de penser à moi puisque je rentrais dans le rang des travailleuses. C'est possible, mais il est encore plus plausible de croire à sa bonté. Le soir, pour mettre mon travail au net, c'est-à-dire pour établir de l'ordre dans les pages embrouillées, je veille assez tard. Si, le matin, je remets à M. de Paulin un écheveau bien dévidé, il déclare que je suis merveilleuse. Je voudrais que ce fût vrai. Je connais mon affaire, c'est indéniable, et les mots se succèdent avec rapidité. Les années heureuses n'ont pas nui à mon métier, je le possède complètement, plus que complètement, parce que je connaissais assez bien ma langue. Cette connaissance nuit aux bévues et surprend un peu M. de Paulin. 12 octobre. Les impressions de mon premier voyage ont disparu. Rome fascinante ne me fascine plus. Elle revêt une couleur terne. Je suppose que cette couleur est celle de mon moi éteint. Jour de sortie hier. J'ai mené mes enfants au Colisée. Ils couraient partout, même dans les galeries supérieures, malgré ma défense. Il m'a fallu sévir. Assise à l'ombre, car la chaleur du soleil est encore très forte, j'ai regardé. Certaines gens soutiennent que la gravure a représenté trop de fois le Colisée pour qu'il soit nécessaire de le voir en réalité. Lourde erreur, aucun dessin qui le diminue fatalement n'en peut donner une idée exacte. Tout en surveillant mes fils, je songeais, et à ma honte, pleurais un peu intérieurement, au lieu d'écouter dans le lointain le fracas des chars, le rugissement des fauves, les applaudissements de cruels spectateurs. Triste chose que d'être dépourvu d'imagination. L'arrivée d'un groupement de gens pieux, conduit par un évêque, troubla ma méditation. La plupart de ces groupements sont laids, mais celui-là, dans ce genre, était remarquable. Il me rappelait ma personne quand j'étais si piètrement habillée. Le groupe s'est massé autour de la croix plantée dans l'arène. Je n'essayais pas d'écouter les paroles de l'évêque, je les traduisais avant qu'il n'eût parlé, mais la locution terminée et les pèlerins dissipés, l'attitude d'un jeune abbé m'intrigua. En m'approchant doucement, je l'aperçus qui, baissé, arrachait de la terre et de l'herbe afin de les emporter comme souvenir d'un endroit qu'il voyait trempé encore du sang des martyrs. Cette foi m'a ému et fait réfléchir. Elle était non pas une illusion comme l'aurait affirmé un incroyant, mais un chaînon de la chaîne divine. Alors, j'ai médité sur l'emprise du christianisme, l'organe spirituel, la grande paire d'ailes indispensable pour soulever l'homme au-dessus de lui-même, au-dessus de sa vie rampante et de ses horizons bornés. Pensée de Taine que mon ami m'a coupillée hier même. Puis je m'aperçus que le mot « illusion » qui avait traversé mon esprit m'attristait, m'inquiétait. Ai-je donc en moi-même un fond inexploré ? Et ma mémoire vagabonde s'est arrêtée sur le délicieux conte de Richepin. Ressemblons-nous, dans nos désirs secrets, à ces pauvres vieux qui, réfugiés dans une cahute, prennent les yeux luisants d'un pauvre chat pour des braises qui les réchauffaient ? 16 octobre. Chaque pas me ramène à ma vie maritale, à Fabien, joyeux de me faire connaître Rome. Il s'est trompé, il a erré, soit. Je lui pardonne toujours et toujours. Mais pardonner n'efface pas le désenchantement. Cependant, mes chagrins se tempèrent dans cette vie nouvelle et relativement heureuse. Je crois aussi que je subis l'influence des passés sur lesquels on marche ostensiblement dans une cité où, mieux que partout ailleurs, on se convainc que tout renaît sur les choses finies. Mes enfants sont naturellement pour moi une renaissance de chaque jour. Je plains les solitaires qui n'ont ni lien ni affection. Ils sont heureux, mes fils, et je suis heureuse mère en les voyant si joyeux. Heureuse mère à présent, oui, mais... Honte à moi de ne pas accepter plus résolument cette phase de mon existence. N'ai-je pas eu une part de bonheur ? Que de femmes n'en ont jamais ! Entourée aujourd'hui d'amitié, de dévouement, de bien-être, avec un travail qui comble mon désir de travailler, suis-je donc à plaindre ? Cœur inconséquent, réponds. 18 octobre. M. d'Hautefort m'écrit qu'il sera à Rome à la fin de novembre ou au début décembre. Alors, chère madame, vos enfants ayant eu le temps de s'habituer ou de ne pas s'habituer dans leur pension, nous verrons clair dans nos projets sur eux. Vous m'écrivez qu'ils sont très gais, mais le plaisir de la nouveauté pourrait s'émousser. La lettre m'a fait plaisir, puis inquiéter, puis fait réfléchir avec je ne sais quelle impression de souffrance. Autrefois, je ne perdais pas si vite mon bon équilibre. Et comment, au milieu de ces formidables tracas, mon pauvre Fabien l'eût-il conservé alors que sa femme se trouble parce qu'un ami lui parle de son arrivée ? 21 octobre. Un fait certain, c'est que je redeviens moi-même. Au milieu d'affres si cruelles, je m'irritais ou jugeais sévèrement. À présent, je ressens les atteintes de mon insouciance d'antan. Par ce soleil toujours très chaud, car l'automne cette année est admirable, Irène m'a entraîné au Palatin. J'évitais jusque-là de revoir les jardins Farnèse, craignant d'être écrasé sous les souvenirs. N'était-ce pas dans ce lieu si joli que, comparant ma vie de jeune fille à ma vie de femme, je me jugeais très heureuse ? Mais non, Irène et moi, avec un plaisir identique, nous respirions le bon air et jouissions des quelques fleurs d'arrière-saison. Tout à coup, je pensais à Céline. « Vous, Irène, vous ne direz jamais que je suis heureuse parce que malheureuse. »« Que voulez-vous dire ?» Je lui racontais. Elle a souri, selon son habitude, en face de mon ignorance. « Eh bien, que dites-vous ? » ?»« Rien, vous ne comprendriez pas. » « Je ne comprendrai pas » m'écriai-je d'un ton bourru. « Ne vous fâchez pas, ma chère, il existe tout un domaine moral qui nous est fermé. »« À vous aussi ?»« Pas tout à fait, mais je dis « nous » par politesse et parce que je n'ai pas encore connu de grosses épreuves. Laissez-moi vous affirmer que des natures se sont transformées dans la douleur, consolées par la foi. Elles ont monté. »« Eh bien, moi, je suis descendue. » Je ne croirai jamais, en tout cas, que le domaine élevé dont vous parlez est ouvert à un être stupide. Logiquement, cet être doit penser que c'est un terrible malheur d'espèce particulière. Irène éclata de rire. Vous êtes beaucoup mieux qu'en arrivant, Frédéric, à ma grande joie, et bien que toujours un peu rétive. 22 octobre. Mieux, comment ne le serais-je pas dans cette existence ? Elle a quelques épines parce que mon labeur me paraît parfois un peu lourd, un peu étouffant. J'aimerais paresser, me laisser vivre, mais je cache soigneusement cette disposition de mon âme flasque et je galope à la suite de M. Paulin qui travaille 8 heures par jour sans broncher. Le soir, lorsque je suis seule et si tranquille dans ma chaumière, ainsi baptisée par mon ami, je me crois dans un éden. Le travail terminé, je recopie quelques notes pour les envoyer à mes parents dont elles sont la joie. Puis je ferme les yeux pour savourer le bonheur de mes enfants, bonheur présent et à venir, pour savourer mon état moral, sans le cœur trop vibrant, l'esprit désormais plus tranquille, dominerait tout, dominerait de vagues inquiétudes que je ne définis pas bien. 27 octobre. Je dis esprit plus tranquille parce qu'il ne peut pas l'être absolument car ma position est temporaire. Alors après, qu'arrivera-t-il ? Après, on verra. Mes fils sont sauvés et à brebis tondues, Dieu mesure le vent. « Vous croyez que le vent est mesuré ? » demandai-je à Irène. « Oui, et vous ? » « Moi, j'aimerais mieux n'être pas tondue et avoir à lutter contre un vent formidable. » Qui vous dit que vous serez toujours tondu et qu'un vent doux ne glissera pas sur vous comme une caresse ? Ce temps-là est passé, Irène. Je ne suis qu'une misérable tondue. Non, vous êtes mère. La réponse me fit rentrer en moi-même et je fus toute contrite. Irène, par un mot tranquille, en même temps profond, me remet en ordre. Malheureusement, en mon grand agacement, l'ordre se permet des écarts. « Je suis une absurde et faible femme, » dis-je un peu piteusement. « Je ne me plains pas, Irène, je constate seulement des faits. » « Constatez, amie, et soyez certaine que je vous comprends, » répondit-elle avec un fin sourire. 30 octobre. Les flots les plus soulevés s'apaisent et je leur compare mon moral. Comparaison bien rococo. Qu'il ne soit plus question de ce terrible moral. Il se redresse de jour en jour et marche presque droit. J'espère n'être pas, par cette affirmation, dans l'illusion des pauvres vieux. Les feuilles tombent, un froid assez vif est survenu, mais un bon poil a tiédi mes deux pièces et je suis si bien. Par malheur, je ne vois pas Irène assez souvent parce que M. de Paulin, très exigeant, perdu en bavardage. Il est trop bien élevé pour éclater, mais je n'aime pas une colère concentrée. Aussi, je vis obstinément dans un fouillis de recherches et de copies. Beaucoup de recherches me sont confiées et mon amour-propre en est flatté. Je classe des passages intéressants et quand le classement est bien fait, M. de Paulin me remercie d'un signe de tête. Une fois en travail, il évite de parler. On dirait que toute sa personne intellectuelle a revêtu la salopette qui lui rappelle de ne plus penser qu'au coup de pioche. Peut-être, voyant ma bonne volonté, abuse-t-il un peu, mais je suis contente qu'il abuse. De temps en temps, il se permet de respirer, alors il me regarde et cause. Ces rares moments de détente me plaisent infiniment, car je rentre dans le courant intellectuel que j'aime. Par un retour qui se fait malgré moi, je compare ces instants, avec tant de moi, aux habitudes saccagées, en miettes, toute intellectualité abolie. N'y pensons plus. 3 novembre. M. d'Hautefort reçoit régulièrement les notes de mes fils. Elles sont satisfaisantes. Il me répond par quelques lignes, si discrètes que j'en suis étonnée. « Je vois avec plaisir, me dit-il dernièrement, que mon départ pour Rome approche. Cette Rome dont vous ne me parlez plus, vous qui en étiez si enthousiaste à votre manière, qui n'est celle ni des savants ni des artistes. Pourquoi, chère madame et amie ?» Je ne lui dirai pas le pourquoi, parce que ce serait revenir sur des jours désolés. Du reste, je me sens moins libre avec lui, et pourtant, je suis reconnaissante autant qu'il est possible de l'être. C'est bizarre. Un bienfait inestimable, nuit donc à la simplicité des rapports. Monsieur d'Hautefort a des droits sur mon bien, et quel bien, mes enfants ? Est-ce la cause d'une certaine gêne de ma part ? Il est certain que le bienfait accentue entre nous le ton cérémonieux. J'en ai un peu de peine. 6 novembre. Nous piochons, nous piochons. À quoi bon tant de science ? Irène, comparée à son mari, est une ignorante, mais ses qualités naturelles, agrandies par sa religion, en font l'être humain qui comprend les moindres raffinements de la bonté. L'ouverture de son cœur est admirable et son bon sens est une pierre précieuse, dirait un poète. Je ne suis pas poète, mais je comprends la poésie. Je devrais aussi saisir les avantages de la science historique au lieu de penser, d'écrire des bêtises. Si les hommes ne piochaient pas dans tous les genres, nous serions une jolie nation. Mais l'abus de la pioche pour une femme... 8 novembre. L'insignifiance personnelle est vivement sentie dans cette ville où tant d'époques ont disparu après un bruit qui dure toujours. Je n'aime pas la sensation de ma complète insignifiance, ai-je dit ce soir à Irène. Pourquoi ? Quelle insignifiance ? Parce que, au milieu de ces anciens Romains qui ont fait et font encore tant de bruit, on n'est rien s'il faut en croire une impression très désagréable. Irène, avouez-le. Elle a haussé les épaules. Rien avec l'intelligence, le cœur, la volonté qui ont animé les disparus. En effet, j'étais ridicule. Néanmoins, je suis quelquefois accablée par ce rien. Jamais pendant mon mariage, je n'ai eu de telles pensées. Mais j'étais aimée et j'aimais. Est-ce de ce côté qu'il faut chercher la clé de mes nouvelles idées absurdes ? 10 novembre. Dans quelques jours, l'enfant d'Irène naîtra. Je l'attends depuis 10 ans, me dit-elle, et je suis bien heureuse. En même temps, elle me regardait d'un air si troublé que je lui en fis la remarque. Frédéric, vous allez voir que je suis faible. Je tiens à vous l'apprendre, vous qui me voyez comme je ne suis pas. J'ai peur. Toutes les femmes, je crois, ont eu peur. Il n'arrivera rien que de la souffrance. J'ai peur de cette souffrance. Pauvre délicieuse Irène, elle m'était plus chère que jamais dans ce qu'elle appelait sa faiblesse. La nature humaine est bien singulière, car la confidence agissait sur moi comme un cordial. Je me trouvais moins petite. 25 novembre. L'enfant, un fils, est né voici 2 semaines. Joie délirante du ménage. Monsieur de Paulin, n'ayant pas quitté sa femme pendant plusieurs jours, j'en ai profité pour achever tranquillement le travail commencé, sans avoir à craindre un encombrement qui me fait toujours frémir. Puis je suis sortie librement pour revoir certains monuments. Ils m'ont paru sans intérêt. Aucune poésie, aucun souvenir ne les a habillés, et ma conviction s'est renforcée que rien de ce qui a été ne sera plus. 26 novembre. Le moi étant haïssable, des étrangers ne liraient pas mes notes sans me haïr, mais mes chers parents jugent que je ne disserte jamais assez longuement sur leur fille. Je suis surprise que, dans ses lettres, mon père ne fasse aucune allusion à M. d'Hautefort. Je le lui ai reproché. « Vous l'avez certainement vu, qu'avez-vous dit ?» À quoi il a répondu que leurs entretiens étaient ceux de 2 hommes qui s'entendent fort bien. Aucune précision. Remarquez également qu'Irène ne parle jamais la première de notre ami. On dirait la conspiration du silence. 10 décembre. Cet ami est arrivé très emmitouflé, car le froid est vif et satisfait d'être à Rome. Je l'ai reçu aussitôt. Il a montré cette cordialité qui lui est propre et désarmerait son ennemi le plus féroce. Dieu merci, chère madame, chère amie, vous avez perdu la mine qui m'affligeait. Je suis changée. Très, très. Je l'écrirai à votre excellent père. Il regardait autour de lui avec un plaisir évident, me complimentant sur ma petite et très agréable installation. Cette espèce de studio est un séduisant refuge. Irène s'entend à organiser. Elle s'entend à tout lorsque sa bonté parle comme vous. « Vous flattez un ami, » me dit-il en riant. « Irène me dépasse et de beaucoup. »« Je ne crois pas. » Un silence, je ne sais quoi, venu de je ne sais où, s'était mis en travers. « Et votre travail ?»« Assez écrasant, ce que j'aime. » « Vous aimez à être écrasé ?»« Oui, s'il s'agit de répondre à des bontés que je ne puis reconnaître autrement. » Votre affection enthousiaste pour Irène, suffit amplement. Quelle tristesse perçait dans l'intonation de la voix. Un silence, j'avais envie de frapper du pied. Invité par Irène à dîner avec lui, ma soirée a été positivement parfaite. Le je ne sais quoi s'était volatilisé et la conversation générale intéressée. Ma chaumière, en rentrant, m'a surprise par son vide. Alors je me suis mise à travailler sans aucune conviction d'ailleurs, mais j'étais en retard. 17 décembre. Un des premiers soins de M. d'Hautefort a été de revoir mes enfants. Il les trouve aimables, bien élevés, charmants en un mot. Ils le sont. Je pense, madame, que nous avons bien combiné notre affaire. Paul et Jean sont gais comme des pinsons et très fiers de balbutier déjà un peu d'italien. Nous avons combiné? Dites, vous! Je n'aurais rien fait, je ne ferai jamais rien sans votre assentiment. Mon rôle est de manœuvrer dans la coulisse. Je souhaitais lui crier quelque chose qui eût jailli de mon âme reconnaissante, et voilà que je demeurais sans voix. Depuis ses premières visites, il se tient sur la réserve. Il ne veut pas, sans doute, accuser des droits qui sont réels. À cette idée soumise à Irène, elle a répondu glacialement. Probablement, cette attitude est digne de sa délicatesse. Je la regrette. Vous regrettez qu'il soit délicat? Non, mais qu'il soit plus distant. Alors j'ai revu le regard singulier que je ne m'explique pas. Il s'associe, j'ignore comment, à ma crainte des illusions. 10 janvier. Hier dimanche, la température était douce à un point extraordinaire. Nous nous sommes tous donné rendez-vous au Pincio où mes enfants devaient retrouver des camarades. Irène, devant la belle vue inspirante, méditait dans ses sphères habituelles, M. de Paulin et M. d'Hautefort échangeaient des aperçus savants. Le dernier se tourna vers moi. Paul prétend adorer la mer et déclare qu'il veut être marin. Je le voudrais, la marine est certainement le contraire des carrières financières. Vous les détestez tellement? Elle tue. Je dominai ma subite émotion, mais l'air apitoyé de M. d'Hautefort m'apprit qu'il m'avait deviné. Ce n'était pas à la vie physique que je pensais, mais à la vie morale. Pauvre Fabien, il eût conservé ses qualités dans leur intégrité si, pareil aux hommes qui étaient près de moi, il avait été soustrait à de pernicieuses influences, si, surtout, il n'eût pas tant aimé la richesse exagérée. Soudainement, j'eus l'idée que je ne voulais plus considérer les choses à travers des cendres. Il me plaisait, et cela tout à coup, d'admirer le prestige de Rome, sans retour des tristesses qui assombrissent les beautés extérieures ou troublent l'âme si profondément. 12 janvier. Irène affecte, ou n'affecte pas, d'ignorer M. d'Hautefort dans nos conversations. Je cherche à imiter un exemple, dirais-je prudent? Pourquoi prudent? Parce que, de plus en plus, l'ami incomparable hante mes pensées. Je l'ai toujours plaint d'être infirme, de ne connaître aucune des joies d'un foyer domestique, mais ma compréhension de ses souffrances est aujourd'hui beaucoup plus grande. J'ai écarté le silence pour aborder le sujet avec Irène. Elle me dit sans hésiter « Ne pensez-vous pas, Frédéric, que cette compréhension plus grande est le résultat de vos souffrances à vous ? Croyez-vous ? Je ne crois rien, je pose une question. Impossible d'y répondre, ma lanterne n'est pas allumée. Oh, que si ! Sa flamme est tremblante, vacillante, mais vous la verrez grandir, et cela rapidement. Mettez la petite flamme à l'abri des vents contraires, cher Frédéric. » Qu'appelez-vous des vents contraires? D'inutiles discussions avec soi-même, me dit-elle vivement. Je l'ai regardée très interdite. Pourtant, se comprendre sans s'expliquer m'a paru un don précieux de l'amitié. 18 janvier. J'ai demandé à M. d'Hautefort. Vous avez vu mon père à Paris? Que vous disait-il? Rien à répéter, je l'ai vu plusieurs fois. La tournure d'esprit de M. Loral me plaît, m'attire. Son bon sens est supérieur à beaucoup de science. Ce n'était pas répondre, mais j'emboîtais le pas. Mon père n'est, en effet, ni un savant, ni un intellectuel. Est-ce regrettable si, comme on me le disait l'autre jour, les intellectuels sont inintelligents? Les trouvez-vous inintelligents? Oui, souvent, car souvent, ils n'ont aucun sens des réalités. Mais le tort serait de généraliser. Vous, vous êtes intellectuel et inintelligent? Moi, je ne compte pas, je ne suis qu'un amateur. En tout cas, vous êtes pleinement dans la réalité quand il s'agit de faire du bien. » Il leva la main pour m'imposer silence, puis il partit assez brusquement. La réalité, où est-elle pour nous? J'ai lu un jour une exclamation de Sainte-Beuve. Et quel débris que nos souvenirs! Le temps ensable l'amour le plus sincère. Cependant, je crois toujours que l'amitié de M. d'Hautefort s'appuie sur un souvenir qui n'est pas un débris. 22 janvier. Dernièrement, j'ai été plus libre avec lui, plus expansive. Je lui racontais en riant que, dans le forum de Pompéi, j'avais pensé à lui. Pensé à moi? Oui, tout à coup, j'ai été frappé par l'idée prophétique que vous auriez une action bienfaisante sur ma vie, grâce à l'influence que vous pourriez prendre sur Fabien. Il est parti, et ce sont mes enfants, les siens, que vos ailes protègent. Il se mit à rire, mais à rire de tout son cœur. Mes ailes, m'assimilez-vous à un ange? Je riais aussi, sans savoir si cette gaieté ne dissimulait pas quelque attendrissement. Son regard inquisiteur me déconcerta. Il se leva pour tourner dans la pièce, prit un objet, le laissa pour en prendre un autre d'un air distrait. « Vous allez casser mon porte-crayon !»« Oh, pardon !» Il se rassit, et moi, emporté par un mouvement irrésistible, je continuai. « L'idée a été si vive, si nette, qu'elle n'a plus quitté mon imagination. »« C'est un bonheur pour moi qu'elle ne vous ait pas déçu. » »« Un bonheur pour vous ? Alors que dire à la mère, consolée, rassurée ? Je ne sais pas bien vous exprimer ma gratitude, elle est sans limite. » Enfin, mon cœur s'était répandu. L'effet fut singulier. La tête renversée, M. d'Hautefort me regardait d'un air hautain, et je me rappelais le jugement d'un camarade du ministère. D'Hautefort est cordial, mais il ne se livre jamais. Il aime sa tour d'ivoire, et je le crois plein de dédain pour l'opinion des autres. L'expression hautaine disparut. Je revis l'air perplexe, hésitant d'un temps bien éloigné. Je m'étais approché de la tour d'ivoire, mais la porte restait fermée. 31 janvier. Voici quelques jours que M. de Paulin supprime une partie de mon travail. Libre, je suis sorti ce matin par un temps superbe et je voyais Rome avec mes yeux d'autrefois. Pourquoi ? Mystère que ces changements. Les jeunes agents, en uniforme d'hiver, étaient amusants dans leur agitation rythmique, les hauts plumés des gendarmes un peu comiques et les mines italiennes plus aimables que jamais. J'étais sous le charme lorsque, après avoir beaucoup marché, beaucoup réfléchi, je revins chez moi avec la vague intention de m'ouvrir complètement à mon ami. Mais Irène se taira dans une discrétion affectée. Consigne, évidemment. Agacée, je la piétinai cette consigne en posant la question directe qui exigeait une réponse non moins directe. « Irène, croyez-vous que M. d'Hautefort, qui m'a aimé, m'aime encore ?»« Oui, je le crois. »« Croyez-vous qu'une veuve qui a beaucoup aimé son mari doive se remarier ?»« Devons-nous, quand on peut apporter du bonheur ?» Elle s'interrompit. « Il ne s'agit que d'un fait. « Frédéric, vous aimez, vous aussi. » Je demeurai longtemps silencieuse. Je pensais à tant de choses. À l'inconstance du cœur qui aimait de nouveau, au dédain de mon mari pour son ami infirme, qui deviendrait peut-être le père excellent de ses fils. Supposons un instant, Irène, que M. d'Hautefort me veuille comme compagne de route. Écoutez les raisons qui ne lui permettent pas de parler. Demandez à Mme d'Ozac de m'épouser. Indélicatesse, parce que, quelle que soit sa répugnance, sa reconnaissance extrême l'engagera à se sacrifier. Elle peut aussi ne penser qu'à ses enfants. Même sans ses fiançailles, elle m'aurait refusé il y a 10 ans. Elle me l'a dit. Alors ? Bah, bah ! Cette psychologie est certaine, Irène. Alors, en théorie, il prend son parti de demeurer seul, triste, sans personne pour l'aimer et le consoler. Moi, dans ma position si infime, si délicate à cause de ses bienfaits, puis-je le détromper ? Vous pourrez n'être pas bête, me dit-elle irrévérencieusement. Là-dessus, elle disparut, me laissant toute tremblante. Quelle effronterie d'avoir parlé si ouvertement ! Après tout, tant pis, les vitres étaient cassées, on verrait les suites. 2 février. Les suites ont été immédiates. Je travaillais hier à ma fenêtre ouverte. Travailler est une manière de parler, car la plume tombait d'elle-même pour me laisser penser. Un chaud soleil inondait ma chambre, mais je n'y prenais pas garde. Dans plus d'un cas, l'extérieur n'existe plus. Un coup à ma porte et M. d'Hautefort entra. Il me tendit les deux mains et emprisonna les miennes que je lui abandonnais. « Frédéric !» J'essayais de me dégager pour cacher mon visage confus, mais il me tenait solidement. « Frédéric, vous voulez bien ?»« Oh ! » dis-je avec grande émotion, « si je pouvais vous rendre heureux !»« C'est fait !» Tous les deux, nous avons parlé à cœur ouvert. Quel bon moment ! Il me racontait ses hésitations, ses craintes. « Si vous aviez refusé, Frédéric, que serais-je devenu ?» Et pour vous, quel nouvel élément de tristesse dans ma démarche. Il me conta encore que, à peine étais-je parti pour Rome, il s'était confié à mon père et lui avait fait promettre une discrétion absolue. Il a été plus que discret. Jamais dans ses lettres il ne mentionnait votre nom. Je conservais quelques craintes. Il semblait tellement heureux de mes confidences. Avant de vous rejoindre ici, je suis allé rue Cassini. Figurez-vous que ses parents parfaits prétendaient mourir de joie si vous disiez oui. Pauvre cher, mourir de joie, tout simplement. Le oui partira par dépêche aujourd'hui même, et dans ce pauvre petit coin de Paris, il y aura du bonheur. Maintenant, j'appelle les Paulins qui attendent dans le jardin. Irène m'embrassa à grands bras, ainsi qu'il convient dans une telle circonstance. « J'ai envie de suivre l'exemple de ma femme, » déclara M. de Paulin en riant. Mais il se borna à un cérémonieux baise-main après avoir ajouté « Je perds une précieuse secrétaire. » Irène me dit « Le silence m'était imposé. J'espère que j'ai été discrète et même un peu comédienne. Je me dédommageais avec Gerbert car je voyais clair. » Lui redoutait des résistances au fond de vous-même et voulait être servi par le temps. Le temps a servi, amplement servi, mais sous votre égide, Irène délicieuse. Le Breuil-Bellay, 1937.